Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h38, le grand débat ce matin avec Marc Fiorentino, Benaouda Abdedaïm et puis un nouveau venu qu'on accueille avec grand plaisir, Charles Sterling, consultant data, créateur de Contenu Finance sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup fait connaître notamment pendant la pandémie pour donner des conseils notamment de finance, grand rival et concurrent de Marc Fiorentino.
Pas du tout.
Sur les réseaux sociaux.
Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
On va voir.
Non, c'est très bien, bravo. C'est la nouvelle génération, c'est la relève.
Allez, tout de suite, on va commencer par l'attitude de l'Europe face aux États-Unis. Parce qu'on a eu tout à l'heure une directrice des financements de la BEI qui a fait un chèque de 200 millions d'euros au patron d'Overage Cloud, Michel Paulin, qui est avec nous, et qui nous dit il faut arrêter d'être naïf avec les Américains. Il faut financer les entreprises américaines, françaises, pardon, européennes, qui font du cloud souverain. Il ne faut pas se laisser faire. Les Américains, à cause ou grâce pour eux au Data Act, Cloud Act, peuvent aller voir ce que toutes les datas des entreprises françaises qui sont sur du cloud non souverain, il faut arrêter la naïveté. Marc Fiorentino, l'Europe, on a fini avec sa naïveté ?
Bah, écoutez, naïveté vis-à-vis de la Chine, naïveté vis-à-vis des États-Unis. Alors vis-à-vis de la Chine, je pense que ça y est. On peut dire qu'on a arrêté, on s'est rendu compte que ça faisait des années qu'on alimentait un système qui permettait à la Chine de se renforcer et nous de s'affaiblir. Pour les États-Unis, je suis désolé, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout. Et la situation qu'on vit actuellement, hein, les négociations qu'on vit actuellement sur l'énergie, face aux États-Unis, qu'on vit notamment sur les mesures que sont en train de prendre les États-Unis par rapport à l'inflation, montrent que, un, on est totalement désunis, ouais. Donc il n'y a pas d'union.
On voit que les Allemands,
européenne,
notamment,
ouais. Et on va l'expliquer, hein, il y a des raisons pour lesquelles on est désunis, mais on est totalement désunis et on est totalement démunis face aux États-Unis, parce que le problème des États-Unis, c'est que c'est notre allié. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation un peu de confrontation comme on l'est avec la Chine, on est dans une situation où finalement, et on ne va pas rentrer, je laisserai ça à Benaouda évidemment dans la géopolitique, mais on voit bien que dans cette situation ukrainienne, et on voit bien notamment qu'avec tout le dossier de l'énergie, on nous a mis aujourd'hui dans une seringue et on nous a mis dos au mur, dans une situation dont les Américains sont les grands bénéficiaires et nous sommes les grands perdants. Donc je crois pas du tout qu'on soit dans une sortie de naïveté. Je pense qu'on a une désunion. Regardez juste les négociations, vous l'avez vu, hein, sur le cap, donc le plafonnement du prix
du gaz,
c'est reporté au 13 décembre et on se mettra pas d'accord. Ouais. Et sur le prix du pétrole, on n'arrive même pas à déterminer du prix du pétrole
russe. Mais ça sert à quelque chose, du coup, d'aller se voir cet après-midi avec Elisabeth Borne et Olaf Scholz si on est aussi désunis? En fait, cette discussion ne sert à rien, Charles Sterling.
Mais pour moi, la solution vient vraiment de l'Union européenne. En fait, on a vu que tous les pays seuls ne peuvent pas lutter face, en fait, à un monde qui est de plus en plus fragmenté. Il y a deux semaines, il y a eu lieu le G20 à Bali, où tous les pays du monde entier, où les plus grands pays, se sont dit pour un commerce multilatéral. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on voit que tous les pays défendent d'abord leurs intérêts nationaux, et en premier, les États-Unis. Par exemple, le package qui a été voté en août, plus de 400 milliards pour soutenir, c'est un loi climat et énergie, c'est un des plus importants de l'histoire, c'est pour défendre leurs industries, c'est pour inciter les entreprises à aller sur le territoire national. Et si l'Europe n'agit pas de manière coordonnée, alors qu'on est un des marchés les plus puissants au monde, ça va être très problématique pour chaque pays français. Par exemple, la France, Bruno Le Maire a dit que ce package pourrait avoir un impact de 10 milliards sur l'économie française et une potentialité de perte de 10 000 emplois à cause de cela. Donc en fait, il y a vraiment une réaction européenne à avoir. Et comme disait Marc, il y a un peu aujourd'hui une naïveté, puisque l'on croit qu'en se plaignant à l'OMC de ce package, il va se passer quelque chose. Et on voit très bien que non. Donc il faut absolument agir, notamment sur les marchés énergétiques, avoir une réponse coordonnée et potentiellement acheter par exemple le gaz ou l'électricité en gros avec la puissance de l'échelle européenne.
C'est ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas, Benaouda, à s'entendre.
Si vous posez la question à Benaouda, il va vous dire qu'on n'y arrivera pas.
Non, non.
Je suis d'accord avec vous.
Non, mais vous m'avez perturbé.
Non, mais on n'y arrivera pas à s'entendre sur les questions énergétiques. On repousse.
Oui. Non, puis il n'y a qu'à voir la réaction du Kremlin par rapport effectivement à cette idée du plafonnement des prix du pétrole. Ça les fait doucement sourire. Cette idée de plafonner à 65-70 $, sachant qu'actuellement, ils vendent au discount à ce prix-là. Donc, ils ont l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. En plus de ça, mise en scène de façon grotesque à leurs yeux et pas qu'à leurs yeux, il suffit de voir le nombre d'analystes au Moyen-Orient qui sourient effectivement de cette idée-là. Mais
parce que c'est un marché mondial et qu'on va pas le réguler nous Européens le prix du gaz.
Non, ce que disent ces analystes-là, c'est que vous devez fixer des objectifs politiques et vous y tenir. Ouais. Et à partir de là, vous prenez des décisions économiques. Mais ouais. Dès lors que vous n'êtes même pas d'accord sur les objectifs politiques, ce qui en découle ensuite, le mécanisme, l'équation économique est subsidiaire. Mais ce qui est très marquant du point de vue des Américains, c'est qu'on a vu par exemple le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, dire qu'il est très, très peu optimiste sur une issue concernant cette loi sur la réduction, un compromis sur la loi sur la réduction sur l'inflation. Mais pour les Américains, tout va bien. Ils le disent. Il y a un article très intéressant dans le Wall Street Journal qui explique que les échanges transatlantiques n'ont jamais été aussi élevés depuis le début des années 2010, ouais. Que l'Union européenne a supplanté la Chine comme principal fournisseur de marchandises aux États-Unis, que au mois de septembre, par exemple, les ventes de les exportations allemandes vers les États-Unis ont augmenté de 50% d'une année sur l'autre. Donc, de ce point de vue-là, qu'il n'y a aucun problème. Et sur un autre sujet fondamental à leurs yeux, qui est l'énergie, ils estiment que si vous devez vous plaindre, plaignez-vous auprès des détenteurs des contrats long terme de gaz naturel de GNL, notamment le plus important qui est Total Energy, qui, de ce point de vue-là, réalise, de leur point de vue, du point de vue des Américains, la marge la plus importante. Donc, de leur point de vue, et d'ailleurs c'était très marquant, Joe Biden ne comprenait même pas, lorsqu'on lui posait la question lors du G20, cette idée de contentieux. Il estime que tout va bien et qu'on ne l'a pas informé.
Charles Sterling. C'est vrai que d'un point de vue américain, l'économie n'a aucun problème, l'énergie est assez faible. En fait, ouais. C'est en Europe où en fait le monde entier vend à l'Europe de l'énergie à un prix très élevé. Ouais. Et en fait, finalement, on se retrouve un peu comme les dindons de la farce où on va surpayer des prix incroyables. Justement, on parlait du cap sur le prix du pétrole. Mon collègue a très justement dit, le prix à 65$ était dérisoire vu que c'était le prix déjà vendu du pétrole russe en fait. Donc en fait, aujourd'hui, les solutions européennes sont inutiles par rapport aux réalités de marché. Et c'est un peu, je pense, qu'on reproche en général à Bruxelles, cette déconnexion de la réalité économique.
Mais ça veut dire, Marc, qu'on a intérêt à se protéger ou qu'on a plutôt intérêt à continuer à commercer et finalement à laisser tomber cette espèce de boule de protection qu'on veut faire de notre économie?
Non, la boule de protection, on n'y arrivera pas. Mais est-ce qu'il faut essayer? Mais évidemment, la réponse est oui. Hein. On est pour la paix dans le monde et pour la fin de la misère et pour que l'Europe soit...
Et pour le Buy European Act.
Voilà, donc oui, j'entendais ce qui était dit tout à l'heure. Évidemment qu'on a intérêt à le faire. On espère tous que ça va arriver.
Je ne sais pas si ça sert à rien.
Non, on a intérêt en tout cas à essayer de le faire, mais on n'a aucune chance. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a été un peu vassalisé avec la guerre en Ukraine. Ouais. Je reviens là-dessus.
Vous disiez qu'on est l'allié des Américains, mais on est aussi leur obligé aujourd'hui.
Oui, ils nous présentent comme des alliés, mais en fait, ils nous mettent en avant. Eux, ouais. Ils sont à l'arrière. Eux, aujourd'hui, ils sont totalement indépendants d'un point de vue énergétique. Donc, ils ne subissent pas l'inflation. Quand ils subissent l'inflation, ils ont un acte d'inflation, vous en parliez, qui bénéficie aux États-Unis. Donc, en fait, eux, ils se débrouillent tout seuls. Hein. C'est America first. Hein. Ouais, on n'a pas Donald Trump, mais on a America first. On a plus America first que quand on avait Donald Trump. Et puis, de l'autre côté, du côté de l'Europe, alors on critique beaucoup l'Europe sur la politique de l'énergie, mais en fait, c'est impossible de se mettre d'accord sur et un plafonnement du prix du gaz et un plafonnement du prix du pétrole, parce qu'il y a une hypocrisie totale, et j'ai retenu ce que disait Ben Aouda tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut être que dans la mise en scène. Comment peut-on se fâcher avec des gens dont on a besoin du gaz? Ouais. Comment peut-on mettre un cap sur le prix du gaz alors qu'on a besoin du gaz russe? S'ils nous mettent un embargo, on ne sait pas quoi faire. Et sur le pétrole, de toute façon, qu'on ne leur achète pas, ils vont le vendre, et ils le vendent à la Chine, à l'Inde, et ça revient en Europe, à des prix qui sont plus élevés que les prix que payent la Chine et l'Inde.
Alors, autre dépendance aux Américains, c'est les taux d'intérêt. On a une petite lueur d'espoir hier avec cette annonce que peut-être que bientôt, on allait décélérer le mouvement de hausse des taux d'intérêt. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt, comment vous l'expliquez, vous, à ceux qui vous regardent sur les réseaux sociaux, cette hausse des taux, et qu'est-ce que ça conditionne et qu'est-ce que ça entraîne?
Charles Sterling.
En fait, en général, j'essaie tout simplement de leur expliquer que pour lutter face à l'inflation, il n'y a pas 200 solutions. En général, les Fed, en général, la Fed aux États-Unis va tout simplement rehausser les taux, pour éviter que les gens continuent de consommer. Et vraiment, ça a un gros impact sur le crédit immobilier. C'est en général sur cela où je souhaite m'orienter. Et finalement, c'est une des solutions et une des seules qui peut fonctionner. Parce qu'on voit aux États-Unis qu'avec cette hausse, ces hausses répétées, l'inflation essaye un peu de se stabiliser. Mais ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Et on voit qu'il y a une déconnexion totalement du marché américain et européen. Puisqu'en Europe, on n'est pas vraiment au point sur le fait de s'arrêter sur les hausses de marché. Et même si, on vous le disait, on va ralentir peut-être les hausses, on va quand même continuer vers ce chemin-là. Donc il y a quand même un risque que l'inflation risque quand même de perdurer sur ceux-là.
En fait, il y a plusieurs pivots. Il y a plusieurs pivots et on en parle souvent dans C'est votre argent. D'ailleurs, c'est ce soir.
Oui, c'est ce soir.
Non, je plaisante. Mais on en parle souvent parce que, en fait, on confond plusieurs pivots. Il y a d'abord le pivot de l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que l'inflation a commencé à pivoter? C'est oui. Aux États-Unis, on commence à avoir une baisse des prix, notamment, on vient d'en parler, baisse des prix de l'énergie, baisse des prix du pétrole, baisse des prix du gaz.
Et vous avez vu qu'en Chine aussi, annonce de baisse des prix sur l'automobile aussi.
Oui, Mercedes, ben évidemment, avec la baisse de la consommation, avec la zéro Covid, avec le ralentissement de la consommation.
Le marché joue son rôle.
Donc on y est, hein. Donc ça marche. Donc là, premier pivot. Deuxième pivot, on confond les deux pivots, c'est de dire à quel moment on va ralentir le rythme de hausse. Attention, pas arrêter.
Non, de ralentir le rythme de hausse, c'est ce que j'ai dit.
Et là, on y est. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça c'est clair. Enfin, je veux dire, moi, je suis prêt à prendre le pari pour la réunion de mi-décembre. On sera à 50 points de base. Certains disent 25, on sera à 50 points de base. Donc, on est dans le pivot. Sur l'Europe, on a un tout petit peu de décalage. Il faut dire qu'on est très, très bas en Europe, hein. Les taux d'intérêt, malgré les hausses de taux, on a l'impression qu'on a monté les taux d'intérêt de façon spectaculaire. En Europe, on n'a rien fait. Donc, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont en pointe. Donc, pivot d'inflation, on peut dire oui. Et tous les économistes de C'est votre argent, je répète, disent on a passé le pivot, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et on est en train de passer le pivot sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Ça, c'est sûr. On le voit, hein, vous regardez le taux de référence, qui est le taux d'intérêt d'emprunt d'État à 10 ans, bah, il était au-dessus de 4%, on est redescendu très bas aux États-Unis, et on a la même chose en Europe.
Mais ce qui est marquant encore une fois par rapport au sujet précédent, c'est qu'il y a un discours aux États-Unis et un point c'est tout. Et en Europe, vous avez encore une diversité d'approches. Il y a eu une interview dans El País, le quotidien espagnol, de Valdis Dombrovskis, qui est le vice-président de la Commission européenne, un des piliers de l'exécutif européen, qui dit la Banque centrale a fait sa part dans la tâche de lutter contre l'inflation, mais que c'est la politique budgétaire qui vient contredire la politique monétaire. Et c'est un discours que tiennent effectivement les Néerlandais, les Allemands ou bien Valdis Dombrovskis, mais qui n'est pas entendu d'un certain nombre d'États membres de la zone euro, et pas des moindres, comme l'Espagne, l'Italie, la France, au premier chef.
C'est-à-dire que les Américains, eux, ils ne se gênent pas pour faire de la dépense publique et du déficit budgétaire.
Hein. Non, mais à la rigueur, peu importe même, ils tiennent un seul discours. Sauf oui. Au sein de la zone euro, on entend une diversité de discours qui empêche, somme toute, de se projeter et d'obtenir une coïncidence entre la politique monétaire et la politique budgétaire.
Oui, parce qu'effectivement, on n'a qu'une monnaie, qu'un taux, et donc si les politiques budgétaires derrière sont contradictoires, ça fonctionne pas.
Pourquoi les marchés n'ont pas explosé?
Alors, ce qui est assez intéressant, on a quand même fait un chemin formidable. Hein,
non, mais d'habitude, à chaque petite nouvelle, on a intégré
fait,
déjà.
On les a fait quand même. Je vous rappelle la journée, cette fameuse journée où on a eu le chiffre de l'inflation qui a été inférieur de 0,3%. On était à 7,7, on attendait 8, on a eu le Nasdaq qui a monté de 7%. On a quand même un réajustement qui est très... Ce qui est très intéressant chez les économistes,
beaucoup monté, ils ont monté 15%,
donc on a un rebond aujourd'hui. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un consensus sur l'économie en 2023. Vous avez vu les chiffres de l'OCDE, en fait tout le monde est assez d'accord pour dire à peu près la même chose, c'est-à-dire une croissance qui sera une croissance zéro, une année blanche pour 2023.
Voire négative dans certains pays.
Voilà, voire négative, mais zéro plus ou zéro moins, avec une inflation qui sera fin 2023 la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là-dessus, on est d'accord. Par contre, là où personne n'est d'accord, et c'est peut-être ça qui est l'essentiel de la réflexion des économistes aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va être le new normal, c'est-à-dire en 2024 et les années après, une fois qu'on a passé l'effet, on va dire, conjoncturel de la crise en Ukraine, de l'après-Covid, sur quoi on va atterrir. Parce que c'est ça, là, ce qui est important pour les marchés. Ce qui est important pour les marchés, c'est évidemment ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais c'est surtout, est-ce qu'à terme, on va vers une croissance qui va rester nulle? Est-ce qu'on va retourner à une inflation qui est une inflation zéro? Ou est-ce que maintenant, de façon durable, on va rester sur des inflations de 2 ou 3%? Si on reste de façon durable sur des inflations de 2 ou 3%, le pricing sur les marchés n'est pas le même, et le pricing sur l'immobilier, je suis assez d'accord, ne sera pas le même non plus.
Alors, un mot quand même du Black Friday, c'est aujourd'hui, ça commence depuis plusieurs jours, et avec ce dérèglement un peu de la machine, on voit ces mouvements de grève chez Amazon partout, y compris en France. On a vu aussi ce qui s'est passé en Chine, chez Foxconn, avec la révolte des salariés qui fabriquent les iPhones. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la tech aujourd'hui ?
Bah, aujourd'hui, par exemple, pour donner quelques statistiques, Amazon, c'est moins 45% de capitalisation boursière en 2022. C'est plus de 900 milliards qui ont disparu. Et toute la tech aujourd'hui s'est finalement fait défoncer sur tous les marchés financiers, que ce soit essentiel aux États-Unis. Mais finalement, le Black Friday, il faut quand même se dire que c'est des jours essentiels pour Amazon ou des entreprises comme Alibaba. Et aujourd'hui, c'est aussi très important pour les consommateurs. Parce que, outre la tech, c'est quand même une très bonne opportunité pour des consommateurs où, on l'a dit, on parle énormément d'inflation. Ils ont vu leur pouvoir d'achat se faire rogner tous les jours de plus en plus. C'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour s'offrir des cadeaux qu'ils vont faire, par exemple, pour Noël ou ce genre de choses. Justement, hier, j'ai fait un sondage sur Instagram rapidement pour demander si les gens allaient faire ou pas le Black Friday. Il y avait deux principaux points. C'était le pouvoir d'achat, puisque les gens n'ont plus d'argent. Il y a plus de 9 millions de pauvres en France. Et le deuxième point, c'était l'écologie. En fait, aujourd'hui, le Black Friday est énormément critiqué dans les pays, surtout occidentaux, par rapport au point de vue écologique, puisque toutes les ventes sont faites sur du commerce en ligne. Et lorsque le commerce en ligne, donc, contrairement au magasin physique, il n'y a pas de stock. Donc la plupart de ces stocks proviennent souvent par avion. Et pour 0,5% de marchandises transportées par avion, c'est 17% de CO2 émis par les avions. Donc en fait, on voit qu'il y a aussi un gros enjeu écologique. Et derrière cela, les gens ne souhaitent plus consommer. Et donc potentiellement, ça peut avoir un impact directement sur ces sociétés qui basent leur business model, pardon, sur les ventes en ligne.
On fera le bilan la semaine prochaine du Black Friday. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.